Note sur le livre du Lévitique par C.H. McIntosh, édition 1957. Chapitres 21 et 22, lecture de l'étude. Ces chapitres montrent avec toute espèce de détails quelles étaient les exigences divines relativement à ceux qui avaient le privilège de s'approcher comme sacrificateurs pour présenter le pain de leur Dieu. Ici, comme dans la section précédente, nous avons la conduite comme le résultat, non comme la cause qui procurait les relations. C'est ce dont il faut bien se souvenir. Les fils d'Aaron, en vertu de leur naissance, étaient sacrificateurs à Dieu. Ils étaient tous dans cette relation avec lui, les uns aussi bien que les autres. Ce n'était pas une position à acquérir, une affaire de progrès, quelque chose que l'un avait et non pas l'autre. Tous les fils d'Aaron étaient sacrificateurs. Ils étaient nés tels. Leur capacité de comprendre leur position et d'en jouir, de même que des privilèges qui en dépendaient, était tout autre chose. L'un pouvait n'être qu'un petit enfant, et un autre pouvait avoir atteint la maturité, la vigueur de l'homme fait. Le premier était, naturellement, incapable de manger de la nourriture sacerdotale, étant un petit enfant auquel il fallait du lait et non de la nourriture solide. Mais il était tout aussi véritablement membre de la famille sacerdotale que l'homme qui pouvait fouler d'un pied ferme les parvis de la maison de l'Éternel et se nourrir de la poitrine tournoyée et de l'épaule élevée du sacrifice. Cette distinction est facile à comprendre dans le cas des fils d'Aaron, et, par conséquent, elle servira d'illustration fort simple à la vérité relative aux membres de la vraie maison sacerdotale sur laquelle préside notre grand souverain sacrificateur, et à laquelle appartiennent tous les vrais croyants, Hébreux 3, verset 6.
Mais Christ, comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance.
Tout enfant de Dieu est sacrificateur. Il est enrôlé au service de la maison sacerdotale de Christ. Il se peut qu'il soit très ignorant, mais sa position comme sacrificateur ne repose pas sur la connaissance, mais sur la vie. Ses expériences peuvent être très misérables, mais sa place comme sacrificateur ne dépend pas des expériences, mais de la vie. Ses capacités peuvent être fort limitées, mais ses relations comme sacrificateur ne procèdent pas de vastes capacités, mais de la vie. Il est né de Dieu, dans la position et dans les relations de sacrificateur. Il ne s'y est pas introduit par lui-même. Ce n'est pas par ses propres efforts qu'il est devenu sacrificateur. Il est sacrificateur de naissance. La sacrificature spirituelle, avec toutes les fonctions spirituelles qui s'y rattachent, est l'apanage obligé de la naissance spirituelle. La faculté de jouir des privilèges et d'accomplir les fonctions d'une position ne doit pas être confondue avec cette position même. Ces choses doivent être bien distinguées. Autre chose est la relation, toute autre chose la faculté. En outre, en considérant la famille d'Aaron, nous voyons que rien ne pouvait rompre les liens entre lui et ses fils. Bien des choses entravaient la pleine jouissance des privilèges attachés à ces liens de parenté. Un fils d'Aaron pouvait se rendre impur pour un mort. Il pouvait se souiller en formant une alliance profane. Il se pouvait qu'il eût quelques défauts corporels. Il se pouvait qu'il fût aveugle ou boiteux. Il se pouvait qu'il fût bossu. Une quelconque de ces infirmités aurait matériellement affecté sa jouissance des privilèges et l'accomplissement des fonctions qui appartenaient à cette relation de parenté, car nous lisons: nul homme de la semence d'Aaron, le sacrificateur, en qui il y aura quelque défaut corporel, ne s'approchera pour présenter les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Il y a en lui un défaut corporel. Il ne s'approchera pas pour présenter le pain de son Dieu. Il mangera du pain de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Seulement, il n'entrera pas vers le voile et ne s'approchera pas de l'autel, car il y a en lui un défaut corporel, et il ne profanera pas mes sanctuaires, car moi je suis l'Éternel qui les sanctifie. Chapitre 21, versets 21 à 23. Mais aucune de ces choses ne pouvait toucher au fait des relations fondées sur les principes de la nature humaine. Quoiqu'un fils d'Aaron eût un défaut corporel, il n'en était pas moins fils d'Aaron. Il est vrai qu'il était privé de bien des précieux privilèges, de bien des hautes dignités appartenant à la sacrificature. Mais quoi qu'il en fût, il était fils d'Aaron. Il ne pouvait pas jouir du même degré de communion, ni remplir les mêmes fonctions du service sacerdotal que celui qui avait atteint à la parfaite stature d'homme fait. Mais il était membre de la famille sacerdotale, et, comme tel, il lui était permis de manger du pain de son Dieu. Les relations étaient réelles, quoique le développement fût si défectueux. L'application spirituelle de tout ceci est aussi simple que pratique. Autre chose est d'être un enfant de Dieu. Autre chose est d'être dans la jouissance de la communion et du culte de sacrificateur. Cette dernière est, hélas, souvent troublée de diverses manières. Nous laissons les circonstances, nos pensées, nos alentours, agir sur nous avec une pernicieuse influence. Nous ne saurions supposer que tous les chrétiens connussent en pratique la même élévation de marche, la même intimité de communion, la même proximité consciente de Christ. Hélas, non. Plusieurs d'entre nous ont à déplorer leurs défauts spirituels. Il y a la marche boiteuse, le sens de la vue défectueux, la croissance arrêtée, ou bien nous nous laissons aller à nous souiller par le contact avec le mal, ou affaiblir et entraver par de profanes relations. En un mot, comme les fils d'Aaron, quoique sacrificateurs de naissance, étaient cependant privés de bien des privilèges par les souillures cérémonielles et les défauts physiques, nous aussi, quoique sacrificateurs à Dieu par la naissance d'en haut, nous sommes privés de bien des grands et saints privilèges de notre position par les souillures morales et les infirmités spirituelles. Nous sommes dépouillés de maintes de nos dignités par un développement spirituel défectueux. Il nous manque un œil simple, une vigueur spirituelle, un dévouement entier et cordial. Nous sommes sauvés par la libre grâce de Dieu en vertu du parfait sacrifice de Christ. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Mais le salut et la communion sont deux choses bien différentes. La relation filiale est une chose et l'obéissance est une toute autre chose. C'est ce qu'il faut soigneusement distinguer. La section sous nos yeux fait voir cette distinction avec une grande force et une grande clarté. S'il arrivait qu'un des fils d'Aaron eût quelque fracture aux pieds ou aux mains, était-il privé de sa relation de fils? Non, assurément. Voici ce qui est, au contraire, positivement déclaré. Il pourra bien manger du pain de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Qu'est-ce donc qu'il perdait par son infirmité corporelle? Il ne lui était pas permis de remplir quelques-unes des fonctions les plus élevées du service et du culte sacerdotal. Seulement, il n'entrera pas vers le voile et ne s'approchera pas de l'autel. C'était là de graves privations et, quoi qu'on puisse objecter qu'un homme ne pouvait rien à la plupart de ses défauts physiques, cela ne changeait pas la question. L'Éternel ne pouvait avoir un sacrificateur taré à son autel, ni un sacrifice taré sur son autel. Il fallait que, soit le sacrificateur, soit le sacrifice fusse parfait. Nul homme de la semence d'Aaron le sacrificateur, en qui il y aura quelque défaut corporel, ne s'approchera pour présenter les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Chapitre 21, verset 21. Vous ne présenterez aucune chose qui ait quelque défaut corporel, car elle ne sera point agréée pour vous. Chapitre 22, verset 20. Or, nous avons à la fois le sacrificateur parfait et le sacrifice parfait en la personne de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. S'étant offert lui-même sans tache à Dieu, il est passé comme notre grand souverain sacrificateur dans les cieux, où il vit éternellement pour intercéder pour nous. L'Épître aux Hébreux traite en détail de ces deux points. Elle met en frappant contraste le sacrifice et la sacrificature du système mosaïque et le sacrifice et la sacrificature de Christ. En lui, nous avons la perfection divine, soit comme victime, soit comme sacrificateur. Nous avons en lui tout ce que Dieu pouvait demander et tout ce dont l'homme pouvait avoir besoin. Son sang précieux a ôté tous nos péchés, et sa puissante intercession nous maintient dans toute la perfection de la place où son sang nous a introduits. Nous sommes accomplis en lui, Colossiens 2, et cependant, par nous-mêmes, nous sommes si faibles et si chancelants, si remplis de fautes et d'infirmités, si enclins à errer et à broncher dans notre marche en avant, que nous ne pourrions pas demeurer debout un seul instant, si ce n'était qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Nous nous sommes déjà arrêtés là-dessus dans les premiers chapitres de ce volume. Il est donc inutile d'y revenir ici. Ceux qui comprennent, en quelque mesure, les grandes vérités fondamentales du christianisme, et qui ont quelque expérience de la vie chrétienne, comprendront aussi comment il se fait que, quoique accomplis en celui qui est le chef de toute principauté et autorité, ils ont cependant besoin, tant qu'ils sont ici-bas, au milieu des faiblesses, des luttes et des combats de la terre, de la puissante intercession de leur adorable et divin souverain sacrificateur. Le croyant est lavé, sanctifié et justifié, 1 Corinthiens 6. Il est agréable dans le bien-aimé, Éphésiens 1, verset 6.
À la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé.
Quant à sa personne, il ne peut venir en jugement. Voyez Jean 5, verset 24, où il faut lire « jugement » et non « condamnation ».
En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
La mort et le jugement sont derrière lui parce qu'il est uni à Christ et a passé par les deux pour lui et à sa place. Toutes ces choses sont divinement vraies du membre le plus faible, le plus ignorant, le plus inexpérimenté de la famille de Dieu. Mais cependant, comme il porte avec lui une nature si désespérément mauvaise et si totalement ruinée, qu'aucune discipline ne peut la corriger et qu'aucun remède ne peut la guérir, comme il habite un corps de péché et de mort, qu'il est entouré de tous côtés d'influences hostiles, qu'il est appelé à lutter continuellement avec les forces réunies du monde, de la chair et du diable, il ne pourrait jamais maintenir son terrain, bien moins encore faire des progrès, s'il n'était soutenu par la puissante intercession de son grand souverain sacrificateur, qui porte les noms de son peuple sur sa poitrine et sur son épaule. Je sais que plusieurs ont peine à concilier l'idée de la position parfaite du croyant en Christ avec le besoin d'une sacrificature. S'il est parfait, dit-on, quel besoin a-t-il d'un sacrificateur? Les deux choses sont aussi clairement enseignées dans la parole qu'elles sont compatibles et comprises dans l'expérience de tout chrétien droit et bien instruit. Il est de la dernière importance de saisir avec clarté et exactitude la parfaite harmonie de ces deux faces de la vérité. Le croyant est parfait en Christ, mais en lui-même, il est une pauvre et faible créature, toujours exposée à tomber. de là l'ineffable bonheur d'avoir, à la droite de la majesté, dans les cieux, quelqu'un qui prend soin de tout ce qui le concerne, quelqu'un qui le soutient continuellement par la main droite de sa justice, quelqu'un qui ne l'abandonnera jamais, quelqu'un qui peut sauver parfaitement et jusqu'au bout, quelqu'un qui est le même hier et aujourd'hui et éternellement, quelqu'un qui le fera passer en triomphe à travers toutes les difficultés et tous les dangers qui l'entourent, et qui, enfin, le placera irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie. Béni soit à jamais la grâce qui a si amplement pourvu à tous nos besoins par le sang d'une victime sans tache et par l'intercession d'un divin souverain sacrificateur. Chers lecteurs chrétiens, efforçons-nous de marcher de manière à nous conserver purs du monde et à nous tenir à part de toutes mauvaises pensées et relations, afin que nous puissions jouir des plus grands privilèges et remplir les plus hautes fonctions de notre position de membre de la famille sacerdotale, dont Christ est la tête. Nous avons la liberté d'entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Nous avons un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Hébreux 10. Rien ne peut nous enlever ces privilèges, mais notre communion peut être troublée, notre culte peut être empêché, nos saintes fonctions peuvent être négligées. Ces questions cérémonielles, au sujet desquelles les fils d'Aaron sont avertis ici, ont leurs antitypes dans l'économie chrétienne. S'ils étaient exhortés à se garder de tout contact souillé, nous le sommes de même. S'ils étaient exhortés à se garder des alliances profanes, nous le sommes de même. S'ils étaient exhortés à se garder de toute espèce de souillure cérémonielle, nous aussi nous sommes avertis de nous garder de toute souillure de chair et d'esprit, de Corinthiens 7. S'ils devaient être privés de la jouissance de leurs plus grands privilèges par les défauts corporels et une croissance imparfaite, nous le sommes de même par les imperfections morales et une croissance spirituelle imparfaite. Quelqu'un osera-t-il mettre en question l'importance pratique de ces principes? N'est-il pas évident que plus nous apprécierons les bénédictions attachées à cette maison sacerdotale dont nous avons été constitués membres, en vertu de notre naissance spirituelle, plus nous nous garderons soigneusement de tout ce qui pourrait tendre, de quelque manière que ce soit, à nous en enlever la jouissance, sans doute. Et c'est là ce qui rend l'étude attentive de notre section si éminemment pratique. Puissions-nous en sentir la force par l'application du Saint-Esprit. Alors nous jouirons de nos places de sacrificateurs. Alors nous remplirons fidèlement nos fonctions de sacrificateurs. Nous serons capables de présenter nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains 12, verset 1.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent.
Nous serons capables d'offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom, Hébreux 13, verset 15. Comme membres de la maison spirituelle et de la sainte sacrificature, nous serons capables d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 5.
Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ.
Nous serons capables d'anticiper, en quelque mesure, ce temps heureux où les Alléluia d'une adoration fervente et intelligente monteront d'une création rachetée jusqu'au trône de Dieu et de l'Agneau pendant toute l'éternité.